Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Siki Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Vous écoutez le Grand Dialogue de Studio Tamani et ce soir nous parlerons de l'urologie, une discipline encore peu connue du grand public et qui se consacre au diagnostic et au traitement notamment des atteintes congénitales, infectieuses et tumorales des appareils urinaires masculins et féminins et de celles de l'appareil génital masculin. Alors quels sont les défis à relever par rapport à l'urologie au Mali? Quels sont les impacts et les conséquences de cette spécialité? Comment se passe la prise en charge dans le pays? Nos invités, professeur Youssouf Traoré, gynécologue, docteur Jara Al-Kadri, urologue, Moussa Sissoko, patient prostatectomie et Guida Seyo Waigalo, psychologue. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler ce soir de l'urologie, une spécialité un peu compliquée, mais nous avons un urologue qui va nous parler de cette spécialité plus spécifiquement au Mali.
Monsieur Touré, je remercie tous les auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Je suis Al-Kadri Diara, je suis urologue au CHU Luxembourg, membre de l'Association malienne d'urologie. L'urologie est une spécialité médico-chirurgicale qui s'occupe des maladies de l'appareil urinaire des deux sexes, je veux dire de l'homme
et de la femme,
que ce soit des plus âgés aux plus petits, et particulièrement de l'appareil génital de l'homme. Donc ce qui fait dire que l'urologue, c'est comme le gynécologue des hommes. Donc l'appareil génital de l'homme appartient à l'urologue, en plus de l'appareil urinaire des deux sexes. Voilà un peu cette définition qu'on peut donner à cette spécialité médico-chirurgicale.
Mais on a l'impression que c'est une spécialité qui regroupe plusieurs maladies.
Oui.
Quelles sont-elles?
Les maladies, elles sont nombreuses, passant par les pathologies infectieuses, les pathologies lithiasiques, les pathologies malformatives. Donc c'est vraiment énorme, mais ça va du rein jusqu'au niveau de l'appareil génital.
Mais par rapport au nom des maladies, quels sont les plus connus?
Le nom des maladies les plus connues, par exemple, c'est la prostate. La plupart du temps, quand on parle d'urologue, les gens vont dire « ah, prostatite, quoi ». Donc, c'est les maladies qui peuvent atteindre la prostate, la vessie, les reins. Donc, les calculs, les cailloux, gabakourou qui se forment au niveau des reins, c'est l'urologue. Au niveau de l'urètre, c'est l'urologue. Les tumeurs de vessie, chaque fois que quelqu'un urine, il y a du sang dedans, c'est l'urologue. Et chaque fois qu'il y a des difficultés à uriner, que ce soit un sujet âgé, un sujet moins âgé, c'est l'urologue. Et question de fonction sexuelle des hommes, c'est l'urologue. Les questions de fonction de fertilité. Quand il y a un problème d'infertilité dans un couple, l'homme doit voir l'urologue. Voilà un peu quelques maladies dont on peut parler quand même par rapport à cette spécialité.
D'accord. Professeur Youssouf Traoré, vous êtes gynécologue. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette spécialité dont Dr Diara vient de parler tout de suite?
Merci beaucoup. Je voulais vous remercier pour nous avoir permis de parler d'une spécialité, c'est vrai, dont on ne parle pas beaucoup. Ce que je voulais simplement rajouter, c'est que souvent la part est difficile entre l'urologie et la gynéco, parce que des organes dont on s'occupe en tant que urologue et en tant que gynéco se trouvent au même endroit pratiquement. Donc ça fait que souvent on a, et c'est une spécialité qui travaille de concert avec nous, parce que les maladies en gynécologie ont des répercussions sur l'appareil urinaire qui va faire appel à l'urologue. Je prends par exemple le cancer chez la femme enceinte. Le cancer du col, souvent, il y a des, ça peut s'étendre à la vessie, qui peut faire appel à l'urologue. Voilà, donc c'est des spécialités qui se retrouvent parfois sur certains aspects.
D'accord.
Voilà.
Mais par rapport, pour faire la différence entre les deux, quelles sont les maladies qui doivent conduire quelqu'un chez le gynécologue et quelles sont celles qui doivent conduire quelqu'un chez l'urologue?
Alors, La gynécologie obstétrique, l'obstétrique, c'est ce qui a trait à l'accouchement, à la grossesse. Ce n'est pas le cas de notre...
Ça, c'est pour les femmes.
Ça, c'est pour les femmes. Et la gynécologie, c'est tout ce qui concerne l'appareil génital. Et dans l'appareil génital, il se trouve qu'il y a aussi l'appareil urinaire chez l'homme, les deux sont... Donc, généralement, le plus souvent, c'est les femmes qu'on voit. Quand la femme vient pour un problème de santé, je prends par exemple le cas de l'infertilité. Elle a un désir d'enfant, elle vient nous voir, on l'explore et on étend cette exploration à la femme, à l'homme aussi, parce que pour avoir un enfant, il faut être à deux. Et donc, ceci fait que souvent, nous avons des examens que nous demandons à l'homme. Et quand il y a des anomalies par rapport à ça, nous avons recours parfois, pas toujours, mais parfois à l'urologue. Donc, il y a des situations où souvent les hommes viennent directement nous voir. Par exemple, il y a un problème d'impuissance, il y a un problème d'éjaculation précoce, il y a des problèmes de fatigue rapide au cours des rapports sexuels. Donc, quand il y a des situations comme ça, le plus souvent on fait recours à des urologues. Quand il y a des problèmes d'enfants et qui nécessitent une exploration en urologie, surtout s'il y a des notions de traitement, de chirurgie sur l'appareil génital de l'homme. Donc, on a recours à l'urologue pour, ensemble, voir dans quelle mesure on peut prendre en charge de façon efficiente le couple.
D'accord.
Voilà.
Moussa Sissoko, vous êtes avec nous au téléphone. Vous êtes patient prostatectomie, j'y arrive. Okay. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette maladie, comment vous la vivez?
Ok, bon. Cette maladie, je me suis surpris atteint de cette maladie il y a exactement 2 ou 3 ans. À la suite d'un contrôle banal, il se trouvait que mon PSA était très élevé. Il était déjà à 1560. Et là, on m'a fait consulter par l'urologue M. Gérard, le docteur Gérard qui est avec vous. Et dans cette consultation, il a commencé par me faire d'abord... un fichier rectal pour vérifier. Et là, il y avait le doute. Et après ça, il m'a dit qu'il faut faire une biopsie. Vous avez coupé un morceau de l'appareil et l'analyser. Donc, la biopsie a confirmé le doute qu'il avait. Et ensuite, maintenant, il m'a dit de faire un scanner général pour voir si le mal ne s'était pas étendu sur le reste de l'organisme. Donc, je me suis soumis à cet exercice aussi. Et puisque cela ne fait pas, donc il dit maintenant, la meilleure façon, c'est de faire l'ablation de la prostate, là. Et cette opération que j'ai faite depuis 2 ans, et depuis 2 ans, donc je suis régulièrement avec lui pour voir tout ce qui peut arriver, quoi. Donc c'est comme ça que c'est arrivé.
D'accord, avec les termes que vous utilisez, on a l'impression que vous-même, vous devenez un spécialiste de cette maladie.
Alors, oui.
D'accord.
Il a appris parce que je crois qu'il fait il fait aussi de l'andrologie, c'est-à-dire qu'il s'entretient avec nous. Il me dit clairement où se trouve l'information. Effectivement, j'ai compris que quand je monte sur Google, j'ai toutes les informations concernant mon statut. Mon statut passé et puis même le statut actuel, je connais assez la grâce à cela. Ça, c'est l'information. Ouais.
D'accord. Guida Seyo Waigalo, vous êtes psychologue. Oui. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette maladie ou ne vont même pas, ont même peur d'aller se faire consulter. Qu'est-ce qui explique cette crainte selon vous?
Bonjour. Permettez-moi d'abord de saluer l'initiative que vous avez prise de mettre sur une même table des urologues, des gynécologues et des psychologues. Évidemment, le problème qu'on aborde aujourd'hui est un problème de société qui mérite d'être regardé de près et surtout analysé de façon plus objective. Évidemment, nous n'avons pas une étude scientifique sur le cas du Mali, mais nous pouvons quand même émettre certaines hypothèses qui reposent sur d'autres recherches. Et vous savez que tout ce qui concerne... permettez-moi d'utiliser le terme, le sexe est tabou et peut entraîner la stigmatisation et même parfois l'exclusion. Le malade a sa psychologie et qui peut justement être comprise comme étant une psychologie particulière. Souvent, nous avons peur simplement lorsque nous acceptons une situation de malade de perdre un statut. Nous avions une place dans notre société et accepter qu'on est malade risque de nous faire perdre une place. Et ce qui n'est pas du tout facile à accepter. Mais il faut aussi prendre en compte d'autres paramètres, pas liés simplement aux malades, mais au système de santé. Je ne vais pas dire ici que c'est la faute d'un tel ou d'un autre, mais nous avons des systèmes de santé qui ont des difficultés à communiquer. Les médecins, il faudrait qu'ils n'oublient pas souvent qu'il est aussi le remède. Comment accueille-t-il ? Comment s'entretient-il avec le malade ? Psychologie, nous parlons de transfert et de contre-transfert. Si je ne vais pas expliquer, le médecin n'est pas le père, et le malade non plus l'enfant. Alors il faut qu'il y ait une relation de confiance. Et si cette relation de confiance n'est pas établie, il peut donc avoir parfois des représentations qui vont être diffusées dans la société. Vous avez entendu souvent, il ne faut pas y aller, l'hôpital c'est un mouroir. Bon, parfois, un ensemble de facteurs donc, qui interviennent et qui font que les malades se réservent ou ont peur d'aller vers les systèmes de santé. Et donc, nous ne sommes pas au niveau des solutions, mais cela va apparaître plus clairement lorsque nous allons proposer des solutions pour pouvoir les amener vers les systèmes de santé qui prennent en charge ces maladies-là.
D'accord. Monsieur Docteur Diarra Al-Kadri, vous venez d'écouter tout de suite Monsieur Weigallo. Êtes-vous conscient de toutes ces difficultés et que faites-vous avec vos patients pour pallier à cette situation ?
Voilà, merci bien pour cette question. Avant d'intervenir dans ce sens, je voulais d'abord faire quelques précisions, surtout par rapport à l'intervention de M. Sissoko. Je suis tout à fait très content de son intervention parce que c'est une interpellation forte. Quand il explique comment il est arrivé jusqu'à ce niveau. Vous savez, il faut être intellectuel, comprendre beaucoup de choses pour accepter de se soumettre à ce que lui a fait. Voilà un monsieur qui n'avait aucun signe urinaire. Il urinait bien, aucun problème, pas de dysfonction érectile, rien. Juste une augmentation d'un antigène qui s'appelle le PSA. C'est très important ce message.
C'est juste. Ça sert à quoi pour le citoyen lambda?
C'est très important. Le PSA, c'est un marqueur du cancer de la prostate qui se trouve dans le sang. Et il se trouve que le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Je dis homme en tant que sexe, puisque la femme n'a pas de prostate.
Tout à fait.
Le cancer le plus fréquent chez l'homme dans le monde, c'est le cancer de la prostate. Et ce cancer est particulièrement fréquent chez les ethnies noires. On ne veut pas me demander pourquoi, parce qu'on ne sait pas pour l'instant. Donc le fait d'être noir est un facteur de risque du cancer de la prostate. Première chose. Deuxième chose, le fait d'avoir un certain âge, plus on est âgé, plus on est à risque de faire le cancer de la prostate. Et en plus, le troisième facteur de risque, c'est le fait d'avoir des parents qui ont fait le cancer de la prostate. Et très peu de gens ont connaissance de ce passé-là. Donc, c'est vraiment important pour nous, les Africains, de s'approprier du dépistage du cancer de la prostate. Ce dépistage passe par un dosage du PSA total chaque année pour tout homme à partir de 45 ans. Vraiment, ce message est très important. Et c'est ce qui a fait que M. Sissoko nous est arrivé. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est un cardiologue qui me l'a adressé avec une augmentation du PSA. Et quand on a fait l'examen, les signes n'étaient pas très évidents. Comme les recommandations le demandent, il faut faire la biopsie. On a fait la biopsie. La biopsie confirme un cancer de la prostate. Tout le bilan d'extension, on l'a fait. Le cancer était localisé au niveau de la prostate. Et le traitement de référence recommandé, c'est la prostatectomie radicale qui consiste à enlever toute la prostate, les vésicules séminales, tout. Ça veut dire que les questions d'avoir des enfants ou bien même les fonctions érectiles, tout cela va être véritablement aboli. Vous voyez, pour quelqu'un qui au départ est venu sans aucun signe, il n'était pas gêné, il n'avait aucun problème, il se retrouve à la fin de tout ça là, sans prostate, sans beaucoup de choses privées. Donc il faut être véritablement intellectuel, comprendre. C'est pourquoi il dit qu'il est bien spécialiste de la question, hein. C'est lui qui informe les gens. Il faut vraiment s'imprégner de la maladie, de sa propre maladie, lire là-dessus. Je lui ai donné beaucoup de temps. Lui-même, c'était un enseignant. Il est donc, il lit sur sa maladie. Il sait de quoi il s'agit. D'ailleurs, il me pose des questions souvent très, très étonnantes. Donc, véritablement, je suis vraiment très content de son témoignage parce que c'est une preuve que les gens... Il est temps que les gens s'occupent de leur propre santé. Et parmi les premières prostatectomies de l'histoire du pays, lui, il en fait partie. C'est-à-dire qu'opérer à temps quelqu'un qui a un cancer localisé au niveau de la prostate, enlever toute la prostate, il fait partie des tout premiers. Donc vraiment, je voulais faire un clin d'œil par rapport à ça avant d'intervenir par rapport aux questions de fréquentation des centres de santé. Voilà, vous savez, ce problème est multifactoriel. Mais moi, je pense que essentiellement, il y a un message de forte et un message de communication, de sensibilisation qu'il faut faire vraiment, comme d'ailleurs nous sommes en train de faire. Beaucoup de temps, les gens arrivent en retard à l'hôpital par méconnaissance des choses. Et souvent, il y a la question aussi de moyens qui est une réalité qui s'impose aussi. Donc, je crois qu'avec le psychologue, il y a lieu vraiment de réfléchir à tout ça pour apporter des solutions appropriées.
L'autre difficulté, ne serait-ce pas également la façon dont les spécialistes communiquent également? Quand on voit même une ordonnance qui a été écrite par un médecin, il n'est pas facile pour tout le monde de le lire. Et les termes utilisés par les spécialistes également quand ils expliquent aux patients la maladie dont ils souffrent, c'est difficile pour les patients de comprendre cela, mais ils ne posent pas de questions aussi.
Voilà, vous posez la question, mais voilà la réponse en même temps. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Un médecin malien est appelé à voir combien de malades par jour. Est-ce qu'on peut se permettre d'expliquer à tout le monde sa maladie de A à Z?
Mais est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser des termes beaucoup plus compréhensibles?
Oui, on l'utilise à tout bout de champ, mais le problème qui se pose chez nous, c'est... Les gens ne s'intéressent pas beaucoup à leurs propres problèmes de santé. C'est-à-dire que ce que le médecin vous dit, ça ne doit pas être seulement... il faut aller au-delà de ça. Vous devez aller vous-même chercher. Le plus important, c'est quoi? Le médecin vous dit, voilà votre maladie. Le diagnostic, c'est ça. Une fois qu'il vous dit que votre maladie, c'est ça, par exemple, une hypertrophie bénigne de la prostate, mais l'essentiel est dit, vous devez aller lire sur l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est quoi cette maladie-là? Il y a des fiches d'information pour les patients. Et c'est les termes simples qui sont utilisés à ce niveau, concernant toutes les pathologies en urologie. Des fiches d'information pour patients, des messages très simples que tout patient peut comprendre.
Vous parlez bien sûr des patients qui ont été à l'école.
Mais bien sûr.
Pour lire, mais oui, et ceux qui n'ont pas été à l'école.
Et ceux qui n'ont pas été à l'école, voilà tout le problème. Parce que là, il faut... les expliquer en bon bamana, tu fais ça, le gars il revient te voir dans quelques jours, tu lui dis c'est quoi votre maladie. Certains déjà en salle d'opération, on va commencer à l'opérer, pendant qu'on a tout expliqué, on lui demande, on va vous opérer pourquoi? Ah, je ne sais pas, hein. En tout cas on a dit qu'on va m'opérer, alors que tout a été dit. La fiche de consentement a été signée, il a été admis au bloc, mais il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a.
Ne serait-ce pas lié à une panique?
On peut comprendre. Panique, voilà. Vous avez répondu. Parce qu'ils ne veulent pas prendre cette maladie-là. Bon, il est annoncé. Quand vous expliquez, il dit mais vraiment rien n'est...
D'accord.
Voilà tout le problème.
Professeur Traoré, alors cette question de langue, bien sûr, on sait qu'il n'est pas facile d'expliquer tous les termes scientifiques en langue bambara, et surtout quand certains spécialistes même ne comprennent pas les langues comprises par les patients. Quelles sont ces difficultés?
Non, moi je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. On ne communique pas.
Les spécialistes.
Non, pas que les spécialistes, les agents de santé, ils ne communiquent pas.
Ok.
Je suis très bien placé pour le savoir parce que je suis dans un domaine où il n'y a pas d'urgence différée. Quand il y a une urgence, il y a une urgence. Et généralement, quand nous on prend en charge une femme, le plus souvent c'est avec un bébé qu'elle porte. Et derrière cette femme qui porte un bébé, il y a toute une famille. Donc c'est vraiment, c'est une spécialité à part. Et je sais que les gens ne communiquent pas. Je ne dis pas qu'on ne communique pas du tout, mais pas suffisamment.
D'accord.
Parce que pour communiquer, il faut maîtriser ce que tu vas dire par rapport à la question qui, pour laquelle la malade est venue. Parce que si quelqu'un vient pour un problème, tu dois parler de ce problème, il faut maîtriser le problème. Donc je pense qu'il y a un gros problème de communication à notre niveau. Il y a aussi, et ça c'est le deuxième gros problème, c'est le niveau intellectuel général. La culture générale de l'Africain en général, du Mali en particulier, est très faible. Donc, si la culture médicale est très faible, ça fait que les gens ne posent pas de questions. On est dans la culture de la fatalité. Nimi, qu'elle a, Allah, ok. Donc, voilà.
Et les gens
ne posent pas de questions pour essayer de comprendre. Et nous aussi, on joue ce jeu en n'expliquant pas clairement les choses comme il se fait. Moi, je pense que ça, c'est vraiment important. Il y a également le fait que le médecin, il fait tout. Il est le père, il est la mère. Il n'est pas rare que nous, agents de santé, on donne de l'argent à des patients pour les aider pour telle ou telle situation, alors qu'il y a un service social qui, lui aussi, généralement, n'est pas très équipé sur le plan financier. Et nous, on n'a pas de psychologue. Moi, je suis très impliqué dans la prise en charge des femmes VIH, par exemple. Qui dit infection à VIH, dit communication. Mais le médecin est obligé de tout faire. Parce que dans nos structures, on n'a pas de psychologue. Dans nos structures, on a... Donc tout ça, c'est des problèmes structurels qu'il faut prendre. Donc le médecin se trouve, comme ça a été dit, au centre de tout ça. Et il faut vraiment... Donc le problème est à tous les niveaux. Et le niveau de culture générale ou culture médicale des patients, ce n'est pas de notre faute parce qu'il faut aller à l'école pour comprendre certaines choses. Ça, c'est au niveau de l'État, au niveau de l'individu. Il y a aussi le problème structurel, la mise à disposition des agents de santé. Dans nos structures de psychologues, nous, quand on était en spécialisation, quand on faisait la visite, il y avait toujours un agent de service social qui était avec nous. À la visite. Et dans chaque unité, chaque service, il y a des agents sociaux qui sont affectés. Donc, quand il y a des problèmes, eux, ils prennent le temps de communiquer. Et ça fait que le médecin, il est déchargé, il s'occupe vraiment de son patient. Et il y a aussi le fait que nous aussi, il faut qu'on apprenne à communiquer. Souvent, les patients quittent ici, ils vont en Europe. On a les mêmes résultats sur le plan santé. La grosse différence, c'est que là-bas, on leur explique. On prend le temps de leur expliquer. Je ne pense pas que ce soit lié au nombre de malades que nous recevons. Il y a ça aussi, mais ce n'est pas l'élément déterminant. L'élément déterminant, c'est qu'on a perdu la culture d'expliquer les choses. Et je pense qu'il faut revenir à ce fondamental-là. Assez fondamentaux pour que les choses puissent
entrer dans l'ordre. D'accord. Moussa Sissoko, vous qui êtes patient prostatectomie, comment vous comprenez cette communication ou cette faible communication entre agents de santé et patients?
Bon, cette communication, c'est une étape très importante. Et je souscris aux observations faites par les uns et les autres par rapport aux difficultés qu'ils ont dans l'exercice quotidien de leur métier. Donc c'est un défi. C'est un défi pour nos pays sous-développés qui n'ont pas suffisamment de médecins. La couverture sanitaire est très faible. Elle est si faible que vraiment il faut que les médecins, que ceux qui sont chargés de cette couverture-là, ils soient imaginatifs, ils soient inventifs pour trouver des moyens de communication adapté aux réalités du pays. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument pour contrer les situations de ce genre-là. Parce que les problèmes de santé sont des problèmes de défis réels à surmonter. Et ce défi à remonter demande des moyens humains, des moyens matériels, et souvent que le pays n'a pas ouvert, qu'ils n'ont pas du tout d'ailleurs. Donc, comment faire à ce niveau? Donc, moi, je pense que nous, les quelques intéressés qui... Je ne sais pas, je n'ai pas la chance, ou en tout cas, j'ai eu la malchance de connaître cette maladie. Nous aussi, nous devons contribuer à mobiliser les gens au quartier, partout, autour des tables de l'autre, partout, en passant, pour leur parler de votre expérience afin d'amener les gens à se suspecter et puis aller voir ce qu'il y a, ou en tout cas connaître son statut. Ça passe par là, effectivement. C'est comme le type de maladie, le sida ou autre, il faut connaître son statut. Donc, concernant le PSA aussi, comme le médecin a dit que ça a perdu 55 ans, il faut faire le PSA. Donc, on continue de faire ça, de vérifier, de s'assurer qu'on a, et qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Et là, on est tranquille, on sait ce qu'on va faire comme ce statut-là. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts sur l'information, sur la communication, sur la communication.
Au-delà de l'information et de la communication, quelles sont les deux autres difficultés que vous rencontrez?
Bon, de mon état actuel. Sinon, moi, Dieu merci, en tout cas, comme je collabore très bien avec mon médecin, je n'ai pas de difficultés particulières à faire. Je passe très souvent faire contrôler mon PSA. Et à partir de là, il me fait des prescriptions. Donc, je suis suivi en quelque sorte.
D'accord. Docteur Diarra, récemment, vous avez organisé une rencontre internationale par rapport à cette maladie. Au niveau du Mali, quels sont les plus grands défis à relever?
Alors, les défis sont énormes. Par rapport à cet événement extraordinaire que nous avons organisé la semaine dernière, il s'agissait en fait du premier congrès international d'urologie qui a regroupé près de 400 participants venus de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, le Maghreb et même l'Europe. Ce congrès a été l'occasion pour les urologues maliens de pouvoir montrer au monde ce que nous savons aussi faire. Je crois que ça a été un véritable rendez-vous de donner et de recevoir. Les témoignages des experts, des éminents spécialistes de ce domaine ont prouvé avec...
Que peut-on retenir de ce congrès?
Eh ben, on retient tout simplement que les défis au Mali sont énormes en matière d'urologie. Ces défis s'expriment notamment par rapport à la prise en charge des pathologies tumorales, parce qu'on avait trois thèmes centraux: les cancers en urologie, on vient de parler du cancer de la prostate et le cancer de vessie, qui ce cancer a la particularité d'avoir l'émanation avec la bilharziose urinaire qu'on appelle Sugune Bleni ou bien gros chien. Il y a aussi le tabagisme qui est une réalité dans notre pays, surtout le tabagisme juvénile qui est en train de s'installer. Donc voilà des facteurs de risque clairs vers ce cancer-là. On a parlé aussi des fistules vésico-vaginales, malheureusement, qui aussi sont aussi une réalité dans notre pays. Comme on l'a dit pendant le congrès, une fistule, c'est un déshonneur. Ça ne fait pas du tout la fierté, c'est un indicateur de pauvreté dans un pays. Quand on voit une fistule dans un pays, vraiment, c'est pas, ça veut dire que les efforts en matière de prise en charge de l'accouchement, il y a encore des efforts à faire. Le gynécologue est là, je crois qu'on a bien débattu ces questions-là pendant le congrès. Ensuite, le dernier thème, enfin, l'un des thèmes importants du congrès, c'était aussi la prise en charge des maladies lichiasiques. La question de fertilité, les troubles de sexualité masculine a été bien défendue avec les questions de fertilité. Donc, véritablement, ce congrès a été une occasion très importante pour nous. D'abord, de faire la promotion de la spécialité, parce qu'on l'a dit, hein, le professeur Traoré vient de le dire, l'urologie est une spécialité qui n'est pas très connue dans notre pays. Donc, il est à nous, le devoir nous revient de faire la promotion de cette spécialité pour que les gens puissent savoir désormais où aller quand il y a de telles pathologies.
Vous avez parlé de fertilité par rapport à cette question. On pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont se consulter par rapport à cette maladie que d'hommes. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que cela veut dire que ce sont les femmes qui peuvent être atteintes de cette maladie beaucoup plus que les hommes?
Voilà, justement, vous voyez que la confusion n'est pas seulement d'ordre général, même au niveau de Studio Tamani, on voit la confusion. En fait, c'est très important, j'ai bien compris. Hein. C'est vraiment la, vous apporter les réflexions réelles de la population. C'est vraiment ça. Mm-hmm. C'est ça l'objet de
ce débat.
Quand il y a une infertilité, on l'a bien dit, quand il y a une infertilité dans un couple, l'homme, c'est l'urologue. La femme, c'est le gynécologue. Donc, les infertilités du couple, ce n'est pas l'homme et la femme, les deux, qui vont chez le gynécologue pour la prise en charge. Non. L'urologue est le gynécologue des hommes. C'est ça le message essentiel que nous voulons faire sortir. Parce que cette spécialité, malheureusement, a souffert par son... Il n'y avait pas suffisamment de spécialistes. Donc le vide est resté très longtemps. Ben évidemment.
Parce Mais que est-ce que vous voyez beaucoup d'hommes qui vont vers vous se faire constituer par rapport
à cette... Oui, ça commence à venir. Ça commence à venir. Mais sinon, la plupart du temps, quand il y a un homme qui vient chez nous pour infertilité, c'est après avoir passé chez le gynécologue qui... après des bilans, des prescriptions et tout, qui nous envoie à la fin pour la prise en charge. Mais nous sommes dans une dynamique, nous collaborons avec ces gynécologues par rapport à la prise en charge, c'est d'ailleurs obligatoire, parce que la question de l'infertilité, comme on l'a dit, ne dépend pas seulement de l'homme ni de la femme. C'est les deux qui sont pris en charge. C'est 35, on va dire un tiers l'homme, un tiers la femme, un tiers entre les deux. Donc c'est vraiment tout le monde qui est concerné et tout le monde doit se faire voir. Et en ce moment-là, l'urologue et le gynécologue resteront en contact pour communiquer, échanger par rapport à la suite à donner par rapport à ce couple. Donc véritablement, nous sommes en train de faire passer ce message-là pour que la population puisse comprendre que urologie, c'est la spécialité qui s'occupe certes de l'appareil urinaire des deux sexes, mais aussi de l'appareil génital de l'homme.
D'accord. Donc voilà. Les hommes chez les urologues, les femmes chez les gynécologues.
Exactement, c'est ça.
Monsieur professeur Traoré, quelque chose à ajouter par rapport aux défis concernant cette spécialité au Mali?
Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça a été dit, hein. Je l'ai dit au début, une grossesse, c'est deux personnes, deux individus. Et effectivement, mais il faut comprendre que dans la démarche pour régler le problème d'enfant, il faut parler terre à terre pour que les gens comprennent, le problème d'enfant dans un couple, en Occident, c'est différent. Mais dans nos pays africains, c'est la femme qui vient en premier. Quand une femme est enceinte et qu'elle vient accoucher, nous, pendant la grossesse même, pendant le suivi prénatal, c'est essentiellement, ce n'est pas l'idéal, mais c'est la femme qu'on voit en premier. Et l'homme, il vient généralement quand tout est déjà réglé. Mm-hmm. Et c'est la même chose pour le désir d'enfant. Réglé ou gâté, voilà. La porte d'entrée pour avoir des enfants, c'est d'abord la femme. Et la femme, elle consulte d'abord le gynécologue. Et naturellement, comme le gynécologue sait qu'un enfant, c'est au moins c'est deux personnes, il va explorer la femme qui est venue naturellement en premier, et dans son au décours de son examen, c'est-à-dire il l'interroge, il l'examine, ou après tout ça, il donne éventuellement un bilan à l'homme. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on donne le bilan à l'homme. Si une femme vient vous dire « Je suis mariée depuis 3 ans, 4 ans, je n'ai pas d'enfant », et dans l'interrogatoire, vous vous rendez compte que le mari qui a une autre femme qui vient d'accoucher, vous n'allez pas demander un bilan pour le mari. Donc, ce n'est pas dans tous les cas qu'on verra, on enverra le mari voir quelqu'un d'autre.
Mais certains pensent qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, même si aucun d'entre eux n'a un problème, mais c'est juste leur sang qui ne sont pas compatibles.
Non, ça, c'est des cas extrêmement rares. Et généralement, il y a une grossesse, mais c'est la grossesse qui ne va pas loin. Mais généralement, il y a une grossesse. Donc, il y a des cas de figure. Donc, pour faire simple, quand il y a un désir de grossesse, il ne s'agit pas, dans tous les cas, j'ai reçu une femme, désir de grossesse, tous les hommes de chacune de ces femmes iront directement chez l'urologue. Ce n'est pas comme ça la démarche. La démarche, c'est qu'on voit la femme, on l'interroge, et au cours de l'interrogatoire, de la prise en charge, on adresse le mari, selon les cas, soit chez l'urologue, soit voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas fustiger cette démarche-là, qui est une démarche classique et qui est d'ailleurs celle qui est faite généralement partout ailleurs.
D'accord, on a parlé un peu de la prostate. Et concernant la fistule ?
Alors pour la fistule, je suis entièrement d'accord qu'il y a des maladies chez nous en matière de médecine. Quand elles existent dans un pays, on considère que ce pays-là n'avance pas. La fistule fait partie. Il y a la rupture utérine. Une femme qui est en travail et l'utérus se rompt, ça veut dire qu'il y a un problème de prise en charge.
Et quel est le degré de fréquentation de la fistule au Mali ?
La fréquence, elle est relativement... C'est vrai qu'il y a vraiment un gros changement, une baisse. Mais il y en a encore.
Quelles sont les causes ?
Les causes, elles sont multiples. Il y a quelques années, il y a 30, 40 ans, quand on fait la revue de la littérature, on demande aux anciens, généralement, ces fistules étaient, en plus des fistules qui sont liées aux difficultés d'accouchement. Parce que jusqu'à présent, les causes les plus fréquentes, c'est les difficultés d'accouchement. Quand je dis difficulté d'accouchement, une femme qui est en travail, qui est enceinte, qui a des douleurs abdominales, qui doit accoucher, qui a des difficultés pour se rendre dans une structure de santé. Elle peut faire 24 heures, 48 heures, peut-être souvent une semaine. Elle est enceinte, elle a du mal à rallier un service de santé. Et il se trouve que là où le bébé se trouve, là où l'utérus, est, je l'ai dit au début, est en contact avec la vessie. Donc si le bébé reste enclavé, et ça va faire qu'il va avoir un trou, soit au niveau du vagin, au niveau de... Donc, communiquer le vagin et puis tous ces organes-là qui sont au niveau... De, et donc, une des principales causes, c'est le fait que le travail soit prolongé. Une autre cause, et qu'est-ce qui peut favoriser ça ? C'est quand les femmes ne sont pas en consultation prénatale. Si tu viens en consultation prénatale, on saura que ton bassin il est bon, que tu peux accoucher. On saura que ton bassin n'est pas bon, donc il faut faire une césarienne avant que la contraction ne commence, donc que les douleurs ne commencent. Mais une femme qui ne vient pas ne pourra pas bénéficier de ce soin. Il y a aussi que les femmes qui sont mariées à des âges très jeunes, je ne veux pas fustiger, nous avons fait le choix au Mali.
Jeunes, voilà. Vous pensez à quel
jeunes, madame, des adolescentes. Nous, chez nous, quand une femme en médecine qui a 14 ans, tu es malade, tu dois aller en pédiatrie. Mais il n'est pas rare de voir des femmes de 14 ans qui sont enceintes. Oh. C'est comme si c'est un enfant qui est enceinte. Cet enfant-là, qui devrait aller en pédiatrie pour des soins, se retrouve parmi des adultes. Ce n'est pas caricatural, mais c'est une chose qu'on voit. Et quand on a 14 ans, l'organisme n'a pas atteint la maturité qu'il faut. Et donc, le bassin, il est petit. Et généralement, l'accouchement est difficile.
D'accord.
Et donc, il y a beaucoup de situations comme ça qui peuvent favoriser.
Ça, tout ça. Voilà. Guida Seyo Waigalo, je ne vous oublie pas. Alors, par rapport à l'intervention du professeur Traoré, tout de suite, il a dit que le rôle du psychologue est très important, mais rarement on voit les psychologues dans les centres de santé. Mais pourquoi former des psychologues si on ne les utilise pas ?
Tu as la réponse toi-même, Monsieur Touré. Je suis très heureux que cela vienne du professeur et je crois qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les psychologues qui manquent. Mais ils l'ont dit, il y a des responsabilités à tous les niveaux qu'il faut assumer, c'est au niveau de l'État. Vous ne pouvez pas former des spécialistes et qu'après, vous ne sachiez pas où les mettre. Ça, c'est un débat. Mais c'est l'occasion de porter à votre connaissance l'existence d'un cabinet de psychologie, Psychosolutions internationales, que nous venons de créer, et qui est en train de faire un travail extraordinaire d'accompagnement, de soutien et d'information. Mais nous évoluons aussi dans le cadre de l'association malienne de psychologie, l'AMAPSI. De passage, peut-être que vous connaissez le professeur Souleymane Koulibaly et le professeur Diko. Qui sont quand même aujourd'hui des encadreurs importants pour ce mouvement, si j'en oublie, qui m'excuse vraiment. Je suis très content d'entendre un témoignage. Et c'est l'occasion de dire que parmi un des facteurs importants, il y a aussi la personnalité. Aujourd'hui, quand M. Sissoko accepte de témoigner, c'est qu'il doit avoir une forte estime de soi. Et peut-être aussi que c'est une personne qui a évolué dans un environnement familial assez sûr. Vous savez, tout se tient. Hein? On est obligé d'aller revisiter l'enfance de certains pour comprendre comment ils réagissent. Il est besoin aujourd'hui de renforcer l'éducation à tous les niveaux, dans nos familles, en assainissant les relations, en abordant les questions de fond, et quand il parle de communication, ce n'est pas seulement au niveau des structures de santé. Je pense que dans les familles aussi, ça ne communique pas. Très tôt, on associe tout ce qui est sexuel au péché, tout ce qu'on n'aimerait pas entendre, les interdits. Donc, nous grandissons avec beaucoup de préjugés dans le subconscient, ce qui fait qu'il est difficile d'aller se confier. Donc ça c'est important. Mais aussi, par revenant au système de santé, je crois que ce n'est pas souvent la communication aussi qui manque, c'est la façon de communiquer. Parce que dans la communication, il y a le non-verbal et le verbal. Je ne vous l'apprends pas. Donc il faut travailler à ce niveau-là, à renforcer les capacités des agents de santé en psychologie de la communication. Et je pense que vous créez l'occasion pour que nous amorcions ce travail. Et aussi, ce qu'il faut souligner, et comme le professeur l'a dit, c'est réel. Mais peut-être que lui, il n'a pas la solution. Et j'espère que si un jour il est le ministre de la Santé, il va penser à ça.
D'accord, espérons qu'il
malheureusement,
va
malheureusement, le médecin ne peut pas tout faire. Il faut le dire, c'est la vérité. Ouais. Nous passons tout le temps à leur jeter la pierre, il l'a dit. 40 patients à examiner en une journée, c'est le stress que cela peut créer, à la fin le burn-out.
D'accord. Donc
et donc, j'ai vraiment des aspects essentiels, les travailleurs sociaux manquent, etc.
Beaucoup de temps. Voilà, il nous reste juste 4 minutes, alors on va partager ce temps qui nous reste entre les invités. De cette façon, docteur Diarra, vous pouvez nous parler des conséquences, et professeur Youssouf Traoré va nous parler de comment se fait la prise en charge, et vous, vous pouvez nous parler un peu des solutions que vous voyez en termes de communication, et monsieur Sissou va nous parler de ce qu'il voit aussi comme solution par rapport à tout cela. Alors on commence par vous, docteur Diarra, les conséquences de cette spécialité sur la population malienne en général.
Alors, merci de cette occasion donnée. La prise en charge des maladies de l'appareil urinaire est capitale. Il faut que les gens viennent, mais tôt. La conséquence la plus fréquente, la plus connue, c'est l'insuffisance rénale. Parce que quelqu'un qui n'urine pas ne peut pas vivre. Donc quand on n'urine pas, ça veut dire que les reins ne fonctionnent pas. Ou bien fonctionnent, mais ne sont pas à mesure, les urines ne sont pas à mesure d'être extériorisées à cause d'un obstacle au niveau de la prostate ou bien à un autre niveau.
D'accord.
Donc véritablement, c'est l'insuffisance rénale qu'il faut craindre.
15 secondes.
Alors, juste pour terminer, en disant que les questions de cancer sont en première ligne, le message essentiel, tout homme à partir de 45 ans doit se faire dépister une fois par an, un PSA total sérique chez un urologue.
Merci. Merci. Professeur Traoré, comment se fait la prise en charge, les difficultés, les équipements, les ressources humaines et tout?
En une minute. Je vais faire simple. Je pense qu'on ne va pas trop s'étendre sur la prise en charge. Il faut plein simplement faire un appel à la population. Dès qu'on a... Quand on est conçu, on a appris à vivre avec un organe, un corps qui est normal. Dès lors qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, on ne dit pas, je vais attendre que... ça ne me gêne pas trop. Donc, dès qu'il y a un événement nouveau qui apparaît, que ce soit par rapport à l'urologie ou à la gynéco, il faut consulter. C'est vraiment l'appel qu'on va lancer. Et il y a des principes qui sont lancés. Le PSA, ça a été dit, 50, 55 ans, il faut automatiquement aller consulter, faire un examen de sang.
D'accord. Est-ce qu'on peut guérir de toutes ces maladies liées à cette spécialité?
Toutes ces maladies peuvent guérir, à condition que le diagnostic soit fait le plus rapide. Même le cancer, il a dit, si le diagnostic est fait très tôt, au moment du dépistage, au moment où les signes ne sont pas là, tous ces cancers sont guérissables.
D'accord. Moussa Sinko, vous êtes patient prostatectomie. Alors vous, quelles sont les solutions que vous voyez par rapport à cette question?
Bon, comme on le dit souvent, prévenir vaut la mieux que guérir. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'information et la communication.
D'accord, ça c'est et par rapport à la population qui doit partir se faire consulter. Et l'État, qu'est-ce qu'il doit faire?
L'État doit encore fournir des efforts pour doter les CCRF d'un urologue, par exemple. Parce que les urologues sont très rares au Mali. Ils sont pour la plupart concentrés dans les hôpitaux du Mankou. Alors c'est à l'intérieur qu'il y a les cas de maladie. S'ils viennent tardivement, c'est parce qu'à l'intérieur, ils n'ont pas l'information et ils n'ont pas reçu les couvertures nécessaires. Le GIDA.
D'accord. GIDA CEO Waigalo, vous êtes psychologue solution.
Alors, solution en une minute, il est difficile d'en dire assez. Je pense qu'il faut continuer à mettre en place des équipes holistiques pour prendre en personne, pour prendre en charge les personnes. Et surtout, comme vous l'avez dit, il faut informer, il faut sensibiliser, mais surtout mettre l'accent sur l'éducation, comme on le fait pour le VIH-SIDA aujourd'hui. Il est important d'en parler.
D'accord. Juste une petite question, docteur Diarra. Vous avez parlé de cette spécialité qui est beaucoup plus fréquente chez les Noirs. Est-ce que le métissage peut résoudre cette question ? D'accord, merci beaucoup. Et ça, c'est ce qui met fin à ce débat. Nos invités, professeur Youssouf Traoré, gynécologue, docteur Diarra Al-Kadri, urologue, Moussa Sinko, patient prostatectomie, et Guida Seyo Waigalo, psychologue. Débat réalisé par Moumine Sendebou, à la mise en onde Seydou Simbo, régie vidéo assurée par Peting Diarra. Je suis Mouhamadou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Demande.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.